On continue, comme elle l'a dit, notre voyage à travers l'Exode, ou dans l'Exode, le deuxième livre de la Bible qui nous parle de l'histoire de Moïse, avec sa naissance, son appel, la révélation au buisson ardent, sa confrontation avec le Pharaon, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge ou de la mer des Joncs, et un voyage qui dure depuis 6 mois. Pour nous. Et j'espère que vous avez pris votre baluchon. Et nous en sommes à la 11e prédication sur l'Exode. Mais avant, j'ai eu la joie et j'ai eu le privilège de passer mon examen civique il y a 2 semaines à Langazur, boulevard de la République, 85 euros quand même, et j'ai, pour essayer de retrouver la nationalité française que j'ai égarée quand j'avais 21 ans dans le consulat de France à Bruxelles. Et donc j'ai bossé, hein, parce qu'il y a 50 fiches sur le site internet du ministère de l'Intérieur pour préparer cet examen civique. J'ai rempli 20 pages, je connais tout, sur les 5 républiques, sur les 2 empires, sur le fonctionnement des 2 chambres et du Sénat, sur les mandats des maires et des conseillers municipaux, enfin bref, sur aussi le fonctionnement de l'Europe, sur les plats principaux des régions, etc. Bon, bref. Et j'ai réussi, mais j'ai appris, il y a des choses que je connaissais pas, il y a des choses que je savais, mais j'ai appris pas mal de choses intéressantes, et j'ai appris notamment ce qu'était le bloc constitutionnel de la France. Combien y a-t-il de Français ici? Bon, je vous interroge un peu. Il y a 4 choses qui constituent le bloc constitutionnel de la France. Il y a d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, vous le saviez. La Constitution de 1946, c'est quelle république ça? La 4e République. La Constitution de 1958, c'est quelle république? C'est la 5e République, c'est la République dans laquelle nous sommes pour l'instant. Et puis, il y a aussi la Charte de l'environnement de 2005. Ces 4 textes de loi font bloc. C'est ce bloc constitutionnel qui fait loi. Et c'est pour nous, Français ou aspirants français, un socle qui nous permet de vivre cette maxime, cette devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. C'est ce bloc constitutionnel qui nous permet de vivre libres, égaux, et frères et sœurs en humanité, en France. Et je trouvais que ça faisait le lien absolument direct, ou le lien parfait avec notre voyage dans l'Exode, puisque nous arrivons avec le peuple d'Israël devant le mont Sinaï ou le mont Horeb, dans le massif du Sinaï. Le peuple est sorti d'Égypte, il a traversé la mer Rouge, comme je l'ai dit, et maintenant on est devant le Sinaï, le mont Horeb, et là, Moïse va recevoir non pas un bloc constitutionnel, mais des pierres. Des pierres, des tables en pierre, avec la loi, avec la Torah. Alors, pour reprendre le film de Cecil B. DeMille, de 1956, les 10 commandements, qu'à Noël, on les repasse à la télévision tout le temps, on voit que, et il l'a bien vu, que le réalisateur, il a donné comme titre à son film « Les 10 commandements », et non pas « La naissance miraculeuse de Moïse ». Non pas non plus, même si c'était un moment cinématographique absolument fantastique, la traversée de la mer Rouge, non, il a donné comme titre à son film « Les 10 commandements ». Parce que la Torah, c'est important, c'est la révélation vraiment de Dieu, le don de la loi, le don de la Torah, un événement majeur dans l'histoire du peuple hébreu et du peuple juif. Alors, dans l'image du film, à droite, ici, on a l'impression que Moïse brandit les tables de la loi et il va les fracasser sur le peuple en bas. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Bien sûr, dans le chapitre qui précède, le don de la loi, en Exode 19, le don de la loi, c'est Exode 20, Dieu est au sommet de la montagne, Dieu se révèle dans toute sa sainteté et sa puissance. Il y a du feu, il y a le tonnerre, il y a de la nuée qui enveloppe, il y a des éléments telluriques, j'ai lu ça, c'est un beau mot ça, tellurique, cataclysmique, parce que Dieu se révèle dans sa sainteté et ça fait peur, et même Moïse a peur. Je voudrais te voir, oui, mais ta sainteté est puissante. Et le peuple est impressionné. Et c'est normal parce qu'on assiste ici à une manifestation de Dieu, qu'on dit en langage théologique une théophanie. Théo, Dieu, phanie, en grec, apparition, manifestation. Une théophanie. Et il se manifeste dans sa puissance. Et à Horeb, souvenez-vous, Dieu s'est déjà révélé à Moïse dans le buisson ardent. Exode 3, si je ne... Dans toute sa puissance, sa magnificence, Yahvé, je suis celui qui suis. Je ne suis pas n'importe qui. Ébloui, on l'a chanté. Ébahi devant ta puissance et ta sainteté. Et on va lire ensemble, pour mettre un petit peu le setting, Exode 19, où on en est. Le troisième mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï et y dressèrent leur camp en face de la montagne sainte. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit « Voici comment tu parleras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. » Des ailes d'aigle. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. On n'est pas une vision, on n'a pas une vision étriquée, toute la terre. Mais je vous ai choisi pour que vous soyez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. On a calculé, enfin, un ami commentateur a calculé que pendant toute cette période devant le mont Horeb, Moïse a fait l'aller-retour 7 fois sur le mont Horeb. Et si le mont Horeb est comme on le soupçonne ou on le pense, le Djebel Moussa, c'est 2285 mètres d'altitude. Ça fait quand même un fameux dénivelé. Mais rassurez-vous, Moïse a plus de 80 ans. Le camp de base est à 1500 mètres. Mais ça fait quand même 785 mètres de dénivelé à faire 7 fois. Et Moïse le fait parce que il est en quelque sorte un médiateur. Parce que le peuple ne peut pas voir Dieu, il a encore trop... peur. Dieu est encore trop puissant ou saint, ou il voit Dieu comme étant encore trop saint, trop puissant. Je voudrais te voir, mais je suis ébloui, ébahi par ta sainteté. Et trop loin. Moïse, comme médiateur qui fait l'aller-retour, qui gravit la montagne 7 fois, 785 mètres de dénivelé, il préfigure peut-être un autre médiateur. Mais cet autre médiateur, c'est une autre histoire, une histoire nouvelle. Alors, il y a de l'intensité dans ce récit du chapitre 19. Dieu peut inspirer de la crainte, mais pour les Hébreux à l'époque, pour les Juifs, aujourd'hui, le don de la loi n'est pas quelque chose d'effrayant. Moïse ne va pas fracasser les tables de la loi sur le peuple d'Israël. Le don de la loi, on l'a lu, c'est marqué en jaune. C'est une alliance qui est en train d'être scellée. Et dans la Bible, le mot « alliance » est tellement important. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous parlons de cette nouvelle alliance. Et c'est bon de savoir que les 10 commandements, c'est marqué à gauche, en haut, en fait, sont appelés aussi le décalogue. Déca, c'est encore du grec, déca, logoi, on va dire, 10 paroles. Pas de commandement, 10 paroles d'abord. Des paroles que Dieu adresse à son peuple et à nous pour nous fonder, pour nous constituer des tables constitutionnelles, nous fonder et fonder notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Et c'est assez remarquable de noter que dans la tradition juive, le découpage des 10 commandements est un peu différent de notre comptage. Il compte comme premier commandement le prologue que vous avez inscrit là. Le verset 1 de Exode 20, c'est « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave. » Esclave. Et ça commence, pour nous ça commence, le 1, premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais pour les Juifs, le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel ». La première parole, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Et ils prennent le premier et deuxième commandement en un. Donc à la fin, on arrive au même total. Mais c'est intéressant, cette première parole qui fonde toutes les autres, qui fonde toute la Torah, toute la loi de Dieu, et le tout part de cette délivrance, de cette sortie d'Égypte, de cette rédemption par rapport au pays où tu étais sous la servitude. Ce n'est pas l'observance de la Torah qui accomplit la rédemption. Dieu l'a déjà accompli en te faisant sortir d'Égypte. Tout part de la rédemption, tout part de la délivrance du pays de la servitude. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tout part de là, tout se comprend à travers cela. C'est parce que vous avez été libérés que je, Dieu, dit Dieu, que je fais alliance avec vous en vous donnant ces 10 paroles. Parce que vous avez déjà été libérés, déjà été sauvés, que je vous donne ces 10 paroles, qui sont en fait des prescriptions. Pourquoi ? Pour la liberté. Une éducation à la liberté. Pour ces anciens esclaves, et je l'ai lu, ces commandements ressemblaient plus à un discours de libération qu'à un règlement d'ordre intérieur. C'est moi qui ai rajouté d'ordre intérieur, d'ailleurs. Pas un discours de libération, pas un règlement d'ordre intérieur. Pour fonder cette liberté, pour fonder nos droits et devoirs, non pas de la République, mais du royaume. Alors, attendez, des lois pour la liberté, des règles pour la liberté, n'est-ce pas contradictoire ? Objection, votre honneur ! Les règles ne seraient-elles pas plutôt une atteinte à la liberté ? Une histoire qu'on raconte souvent dans le parcours alpha, pardon pour les alphaïstes, mais je l'aime bien cette histoire. C'est un groupe de parents qui ont l'habitude d'organiser pour leurs enfants un match de foot un peu informel, mais quand même avec un des parents, Alexis, et qui s'y connaît bien en foot et qui sert d'arbitre. Tout se passe bien d'habitude, mais aujourd'hui, ce dimanche après-midi, Alexis n'est pas là. Alors, les parents désignent un volontaire qui n'est pas vraiment volontaire, qui s'appelle Robert, Mais Robert s'y connaît pas bien en foot, hein. Il préfère les échecs, mais il veut bien aider. Il comprend pas tout à fait les règles du hors-jeu. Il accepte en reculant et le match commence. Et ça commence très mal. Robert est de bonne volonté, mais il siffle à tort et à travers, hors-jeu, pas hors-jeu, pénalty, pas pénalty, touche, pas touche, faute, pas faute. Et puis, c'est la bérésina sur le terrain. Il y a des enfants qui commencent à râler, à grogner, comme le peuple d'Israël à Mériba. Et puis, il y en a d'autres qui s'énervent. Il y en a certains même qui pleurent dans un coin. Il y en a qui n'ont même plus du tout envie de jouer et qui leur disent à leurs parents. Une catastrophe que ce match de foot avec Robert. Et puis, Alexis arrive et Gérard lui cède la place avec soulagement. Alexis rassemble les enfants, réexplique simplement mais clairement les règles. Toutes les règles, celles du hors-jeu notamment, il délimite les limites du terrain qui étaient un peu vagues. Il réexplique le degré d'engagement pour les tacles. Tu peux faire un tacle, mais attention, il y a un degré d'engagement. Le match commence et Alexis est super cool. Et il siffle à bon escient, même s'il n'est pas arménien. Oh oh. Mais... Et il ne siffle pas tout le temps non plus. Et les enfants font un match de foot incroyable. Alors que dire par rapport à la liberté ? Les enfants étaient-ils plus libres de jouer sans les règles ou avec les règles ? C'est une question rhétorique. Ils étaient libres de jouer le match de leur vie avec des règles claires et justes. Et ils l'ont joué avec joie. Dernière remarque sur les 10 paroles, sur ces 10 commandements que nous allons voir. Remarque, c'est qu'elles sont au futur. Tu n'auras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de vol, etc. C'est tout au futur. En hébreu, on ne parle pas vraiment de futur. On parle d'inaccompli. Quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais qui va l'être dans le futur. Et quelqu'un disait qu'il y a une dimension d'avenir dans ces paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Pas simplement, mais une sorte de promesse d'avenir. C'est comme si Dieu disait: je te le promets, il te sera un jour possible de ne pas tuer ton frère, de ne pas voler, de ne pas convoiter, parce que je serai avec toi, parce que je serai là dans ta vie, dans la Torah, dans la loi, dans mon alliance pour t'aider. Tu n'es pas seul dans l'histoire, je te donnerai la capacité de répondre à ces 10 paroles, et peut-être aux autres aussi. Jésus lui-même parle au futur quand il résume la loi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, tu aimeras. Un futur chargé de promesses, une promesse de sa présence pour nous permettre d'accomplir sa volonté, sa loi. Un commentaire juif raconte cette histoire au sujet de la Torah, du don de la loi. Torah, c'est loi. Une belle histoire qui nous montre bien la place de la Torah chez nos frères et sœurs juifs. Voilà l'histoire. Lorsque Moïse, après avoir gravi le Sinaï, est arrivé au ciel, les anges ont demandé à Dieu ce qu'un homme né d'une femme faisait là. Dieu a répondu qu'il était venu pour recevoir la Torah. Les anges se sont plaints en disant: ô Dieu, n'es-tu pas satisfait avec nous les anges? Pourquoi ne gardes-tu pas la Torah dans le ciel? Qu'as-tu à voir avec cet homme qui habite la poussière? Alors Dieu s'est tourné vers Moïse et lui a demandé de répondre lui-même aux anges. Alors Moïse a dit, « Qu'est-il écrit dans la Torah ?»« Je suis la première parole, Moïse cite. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de la maison de servitude. Est-ce que vous avez, vous les anges, été esclaves en Égypte pour avoir besoin de la Torah ? Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu respecteras le jour du sabbat. Y a-t-il des anges idolâtres et qui sont abrutis, asservis par le travail pour que vous ayez besoin de la Torah ? Et les autres paroles sur le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, la convoitise, est-ce qu'elles vous concernent, vous les anges ? Alors, les anges ont laissé partir Moïse avec la Torah et ont entonné le psaume 8 qui dit « Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, tu as fait les hommes de peu inférieurs à toi, Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Magnifique histoire, n'est-ce pas ? La Torah pour les humains, la Torah, la loi de Dieu, pour une humanité libérée. Alors, on pourrait presque s'arrêter là, peut-être vous auriez bien voulu, mais nous allons quand même lire ces 10 paroles dont je vous parle depuis maintenant 10 minutes ou plus, et nous poser la question de savoir comment elles peuvent résonner en nous, comment elles peuvent trouver en écho à nous, et nous allons les lire ensemble. Avec, je l'ai mis en exergue, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Vous avez bien compris, pour les Juifs, c'est la première parole, et la 1, 2 et la deuxième. Mais pour nous, la première, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie. Alors, on va l'enlever. D'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni de rien de ceux qui appartiennent à ton prochain. On note qu'il met la maison avant la femme. Alors comment considérer ce décalogue ? Alors on pourrait l'appeler, je l'ai lu, le top 10. Le top 10, Yvonne ? Voilà, top 10. Ou aussi un checklist. Vous savez, les checklists qu'on doit checker. Ouais, ça c'est bon, ça c'est moins bon. 0, 1, 2, 3. Une checklist de notre relation avec Dieu et avec les autres. Alors, on va faire rapidement, on va dire, des choses qui m'ont un petit peu frappé. Je m'aperçois d'ailleurs que j'aurais pu faire une prédication pour chaque parole. Mais ça nous aurait amené jusqu'en 2035. Et donc, on va faire plus court. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et puis les idoles, écrit en jaune, les idoles, pas seulement peut-être le pouvoir, habituellement les idoles c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Et on s'aperçoit qu'on se dit, bon ouais, c'est basique ça, ah, c'est quand même ça qui, quand on regarde les actualités, peut-être un peu nos vies, on se dit, bah, oui, il y a quand même des risques d'idolâtrie assez importants avec ces trois domaines. Mais je lisais quelqu'un qui disait, oui, on pense à l'argent, au sexe et au pouvoir, mais la politique, le sport, ou le jeu, les paris, ou, ou le petit écran vert que l'on scrolle, mais qu'on passe. L'idolâtrie, il y a des philosophes juifs qui ont dit l'idolâtrie c'est pire que l'athéisme. Il y a Elie Wiesel qui disait, prix Nobel de la paix en 1985, juif, qui disait, un homme qui s'abaisse devant une idole faite par d'autres hommes se renie lui-même, renie son humanité. Le troisième, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Normalement, c'est en vain, mais toutes les traductions françaises, enfin, j'ai maintenant plus récentes, mettent pour tromper. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Tout ce que l'on fait, prendre le nom de Dieu, ou un mot en référence avec la foi en Dieu, pour tromper, pour manipuler. On a l'exemple du diable dans la tentation de Jésus, dans Matthieu 4, qui utilise l'écriture pour faire chuter Dieu, pour faire chuter Jésus, pour détourner Jésus de sa mission. Il le trompe, il cherche à le tromper avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit des gens qui utilisent le nom de Dieu pour tromper le monde. Honorer tes parents, le cinquième commandement. Alors, honorer, c'est donner du poids, donner de la valeur. Et je lisais encore un commentaire qui disait que ce commandement interrogeait le regard que nous portons sur nos parents, sur les anciens en général, sur les personnes âgées. Et j'ai trouvé que, et voilà, je vous lis ce qu'il dit. Aujourd'hui, les vieux sont formidables quand ils sont bien adaptés et pas trop vieux. Quand ils sont en bonne forme, quand ils ont de l'argent, quand ils voyagent, quand ils savent naviguer sur Internet, quand ils conduisent encore leur voiture, quand ils aident leurs enfants. En revanche, si par malheur, il y a quelques maladies invalidantes, si son travail l'a épuisé et qu'il en garde des séquelles, s'il manque d'enthousiasme pour l'avenir et si les merveilles de la technologie moderne lui paraissent incompréhensibles ou superflues, alors on ne loue plus sa sagesse de vieux, on le cache et on ne l'honore plus. La Torah, le Décalogue, nous invite à donner du poids et de la valeur à ceux qui nous précèdent. Et pour les cinq autres paroles, Yvonne, on peut faire ressortir la dixième, la convoitise, en jaune, qui pourrait chapeauter le tout, le vol, le meurtre, l'adultère, la convoitise à la base de beaucoup de nos fautes. Il y a une anthropologue qui disait assez justement que si je désire un objet, si je convoite un objet, ce n'est pas à cause de la satisfaction objective qu'il peut m'apporter, mais parce qu'il m'est montré désirable par le désir de mon prochain. Une expérience, on met deux enfants avec deux jouets identiques dans une pièce. Après quelques temps, les deux enfants, deux jouets identiques, les deux enfants vont délaisser un jouet pour vouloir le même et se disputer sur le même jouet alors qu'il est identique à l'autre. C'est expérimental, empirique, la convoitise qui naît tellement de la satisfaction objective que l'on pourrait tirer de cet objet ou de cette chose, de ce concept, enfin vrai, mais du désir de l'autre. La Torah nous appelle à nous libérer de la comparaison. Alors oui, ces paroles nous concernent, nous les hommes et les femmes du XXIe siècle, et elles nous interpellent hein, dans notre fragilité, dans notre humanité, et disons-le, dans notre péché, dans notre incapacité à faire le bien et à faire vraiment le bien. Alors, que faire avec ces commandements? Que faire avec la loi? Quel rapport entretenir avec la Torah, comme je l'ai répété plusieurs fois, et en particulier ce décalogue? Je vous propose d'y répondre en trois mots. La loi et moi, et moi et moi, en trois mots. Et le premier mot, c'est, en tant que chrétien du XXIe siècle, Je te répondrai un petit peu après, parce que c'est compliqué là. Mais je retiens. Une mise à distance par rapport à cette loi. Et Paul, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, cette fois dans la Nouvelle Alliance, va se distancer par rapport à la loi, mettre une distance, parler d'une manière relativement négative, quand il va dire « personne ». Personne ne sera déclaré juste devant lui, devant Dieu, par l'observation de la loi. C'est radical. Personne ne sera justifié par l'observation de la loi. On est justifié, et il le dira plus loin dans Romains 3, par la foi. La justification par la foi redécouverte par Luther, Martin Luther, au XVIe siècle. Et donc, mise à distance. La loi, ouais, les règles, non, c'est pas ça qui me justifie. Et donc, il faut faire attention à ne pas revenir à la loi comme justification de notre vie. Et il faut faire attention aux légalistes de tout poil qui veulent toujours ajouter des règles, même chrétiens, même religieux, qui veulent toujours à rajouter des règles et soumettre les autres à ces règles. On a l'exemple avec le sabbat. Nous ne sommes plus sous la loi du sabbat. Et Paul le dit en Colossiens 2, écoutez bien, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête et des sabbats. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Amen. Oui. La réalité est en Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, il ne s'agit pas de retourner en arrière. La réalité est en Christ et dans sa nouvelle alliance. Et puis deuxième mot, l'accomplissement, avec deux sens. D'abord, dans le sens où Christ accomplit la loi. Il va au bout de ses 10 paroles. Il va les réinitialiser. Il va faire une fameuse mise à jour dans son serment sur la montagne, son serment sur la montagne. Son serment sur la montagne, il dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son voisin commet en quelque sorte un meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, c'est Jésus dans Matthieu 5, dans son sermon sur la montagne, dit, tu ne convoiteras pas, mais moi je vous dis, si vous avez des pensées de convoitise par rapport à une femme, il s'adresse à des pharisiens contents de leur masculinité, tu sais, moi j'ai rien fait, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas convoité, etc. Mais si tu le fais dans ton être intérieur, c'est à assimiler avec l'adultère. Jésus, parce que les Juifs à l'époque avaient considéré le décalogue et le reste comme un règlement à faire, mais Jésus pointe sur l'attitude du cœur. Où est-ce que tu en es dans ton cœur et dans tes pensées ? Il intériorise tout ça, il remet à jour. C'est l'attitude du cœur qui compte pour Jésus. Et donc, ce top 10 réinterprété par Jésus nous interpelle, nous gêne, surtout moi en tant qu'homme, nous sensibilise et nous amène à Jésus. Parce que le deuxième sens d'accomplissement, c'est celui-là. C'est Jésus qui accomplit en lui la loi. Parce que cette checklist nous était défavorable. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et ton pardon pour vivre cette loi de liberté. Sans toi, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de ta promesse qu'avec toi, je peux y arriver. Avec toi ou en toi, d'ailleurs. Et donc, Jésus, oui, il est... remet à jour la loi, mais il l'accomplit aussi en lui-même. Il est le seul homme à avoir rempli en lui toutes les exigences de la loi. Et c'est cet homme innocent qui meurt sur la croix pour nous libérer complètement de notre servitude, de notre incapacité notoire d'accomplir les standards de sainteté de Dieu qui nous empêchaient de le voir. Dieu nous regarde maintenant à travers Jésus-Christ et nous pouvons désormais le voir, le regarder, le contempler sans craindre. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Chaque fois que nous ratons quelque chose, que nous dépassons les règles de la loi, souvenons-nous que Jésus l'a observé en notre nom. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il l'a porté à notre crédit. Je ne suis pas venu abolir la loi pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et quand il accomplit la loi, il devient notre intermédiaire, notre médiateur, et il n'y a plus besoin de faire l'aller-retour sur le mont Sinaï. Il est venu une fois pour toutes parmi nous. Et j'aime ce verset de Jean 1, il a planté sa tente parmi nous. Littéralement, il a tabernaclé parmi nous. Il a montré la présence de Dieu parmi nous. Il a planté sa tente dans le désert de nos vies pour nous prendre, et il reviendra pour nous prendre avec lui dans une nouvelle création où la justice habitera. Troisième mot, réappropriation. Dieu nous révèle dans ses 10 paroles ce qui est important. La rédemption, première parole, le nouveau départ dans la vie et la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Et je veux y vivre dans cette nouvelle loi de liberté, sans retourner en arrière, pas dans un légalisme étriqué, mais dans le désir de ressembler à celui qui a tout accompli pour nous, de ressembler à Jésus. J'aime ce verset qui dit dans Romains 7, mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit. Ça, c'est tout le message de la libération. On se réapproprie ce décalogue, mais d'une manière nouvelle, par l'Esprit. Je vous cite un verset. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Très pratique. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns des autres. Mise à distance, accomplissement, réappropriation, c'est notre attitude par rapport à cette loi, par rapport à la Torah que Dieu a donnée à Moïse et pour le peuple d'Israël, pour qu'il puisse rayonner et être lumière du monde comme la promesse qui avait été faite à Abraham. Trois questions pour la route. Pour la route, pour le voyage. Pencherais-je plutôt du côté légaliste ou du côté de la liberté à tout prix? J'ai cherché un mot qui correspondait à légaliste. Libertarien, libéral, libérationaliste, mais tous sont teintés. Mais vous comprenez ce que je dis du côté de la liberté à tout prix. Être libre, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux, même des discours de haine. Je suis de quel côté? Légaliste, que des règles, rien que des règles, justifié par les règles, ou du côté liberté à tout prix? Quelle parole du décalogue t'interpelle particulièrement? Le faux témoignage? Le mensonge ou l'arrangement de la vérité, le vol, la convoitise, une petite idole par-ci par-là. Que signifie pour toi marcher par l'esprit?